paysan. Je dois me rendre à Paris au plus vite. J'ai des dépêches urgentes pour l'empereur lui-même.
Si tu le dis, mon gars.
Si, qu'est-ce que tu veux savoir?
Quel est le chemin le plus court pour traverser la rivière Boulkagov?
Moi, si j'étais toi, je prendrais le rang au nord et puis je prendrais le clos vers l'ouest.
Hey, qu'est-ce que tu racontes là, toi? Ben non, c'est bien mieux qu'il prenne le pont couvert au sud.
Par pitié, brave paysan, faites vite! L'endroit grouille de cosaques sanguinaires!
Il pourrait peut-être prendre le chemin par la forêt des ombres.
Ouais, mais y a-tu pensé? C'est plein de loups-garous.
Mais faites vite, maman! Je les entends approcher! Quel est le chemin le plus court pour aller vers Paris?
Il y a un nerveux jeune, hein? Y étions pas bien polis, en plus.
Ben oui, en plus, dehors, à cette heure-là, il va attraper la grippe. T'as-tu vu son manteau? Ça prend bien juste un Français pour s'habiller de même en Ukraine au mois de janvier.
Vive la France!
T'on revise les Cosaques louches. Pourtant, après tout l'alcool qu'on leur a fait boire, ils étaient complètement bourrés.
C'est sûr qu'avec le temps qu'il a pris pour se décider, ils ont bien eu le temps de viser.
Oh, regarde ça, y a un papier qui sort de sa sacoche. Tu sais lire, toi?
Eh, attends un peu, on va demander aux Cosaques moustachus là-bas. Hey, je te donne un coup d'œil là-dessus.
Excusez, et cette semaine, nous avons une entrevue avec Brian Perrault, créateur d'Amos d'Aragon. Nous parlons nouveautés jeux vidéo avec Sylvie Tapp et Mathieu Place nous parle de jeux rétro.
Ah, ben alors, il s'emmerde vraiment pas l'empereur, hein?
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Écoutez Puissance Maximale, votre magazine ludique préféré hebdomadaire. On remercie Jean-Marie qui vient de faire un petit rôle pour nous, hein, le Cosaque, n'est-ce pas, dans cette Russie impériale. Donc, salut Sébastien Lalard.
Bonjour François Gécouillard.
Saboum.
Bonjour Québec.
Alors, on n'a pas grand-chose à dire cette semaine. En fait, semaine passée, on a été tranquille. On est resté chez nous pour une des rares fois depuis qu'on a fait cette émission.
Mon Dieu, que ça faisait longtemps qu'on n'était pas resté chez nous, justement, pour profiter et puis jouer un petit peu. Là, j'espère que tu en as profité aussi pour jouer.
Oui, on a joué à toutes sortes de petits jeux. Mais d'ailleurs, je pense que tu nous as préparé un petit reportage. Mais avant tout, je pense qu'on va aller écouter peut-être une pièce musicale.
Oui, parce qu'aujourd'hui, comme justement on l'a dit dans l'introduction tout à l'heure, eh bien, on reçoit, en tout cas en entrevue... L'entrevue téléphonique. Brian Perrault, exactement, c'est quand même toute une affaire.
Fait qu'on va passer une pièce pour se préparer. On va l'appeler.
Exactement.
Il va nous parler du sanctuaire des braves, qui est une sorte de grandeur nature pour les enfants.
Donc, on se retrouve tout de suite après ça.
Vraiment. OK, je suis Normand Lamour, et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
De route, c'est le temps qu'il faut pour se rendre au pays des métalleux, Rouyn-Noranda. C'est dans ce coin de pays qu'a eu lieu les premiers Extreme Board Games, festival du jeu de plateau trash, pour la première fois dans le monde. Ils étaient tous là, ces héros venus des quatre coins de la province pour s'affronter dans un tournoi sans pitié où tous les coups étaient permis. Situons-nous dans le contexte. Nous sommes au beau milieu de la jungle canadienne, dans la cabane d'Éric Rémy, personnage aussi étrange que sympathique, possédant un drapeau états-unien comme paillasson. Tels des cow-boys entrant dans un saloon désert, nous pénétrâmes à 6 heures du matin dans cet antre de la déchéance humaine. Affamés de jeux, nous nous lançâmes dans un marathon de jeux ludiques déchaînés. Plusieurs jeux retinrent l'attention des participants. Maxima Sumo.
Ha ha ha!
Guitar Hero.
Oh mon dieu, j'ai pas la mes appuyés.
Et surtout, oui, Seigneur des Ténèbres.
Pas bien, mes braves serviteurs. Je vous ai ordonné d'enlever la princesse et de me l'amener. Je ne vois pas du tout de princesse ici. Avez-vous mené cette mission à bien? Termine, prends-toi!
C'était pas la princesse,
c'était
la reine des momies
qui t'a
demandé!
Excellence!
Mmh.
On ne contredit pas
ton
maître des ténèbres!
Yes, ça change une carte! J'ai dit que t'aimais pas tes cartes!
Certains joueurs se sont particulièrement distingués dans le rôle du gobelin dépité d'avoir échoué sa mission.
On est arrivé au temple en ruine.
Oui, on est arrivé au temple en ruine, et là, on a aperçu la porte, finalement, qui venait...
La porte, la muraille, le temple!
Oui, mais c'est parce que l'arbre est dans ses feuilles, mais...
Le rock coule littéralement dans les veines des Abitibiens. Le saviez-vous? La région est célèbre pour ses groupes de musique poil. On y a donc rencontré le meilleur joueur de Guitar Hero jamais vu de ce côté de l'hémisphère terrestre. La compétition a eu lieu dans une atmosphère de joie et d'effervescence, chacun présentant son jeu tour à tour pour essayer d'en vanter les mérites, a pu, dans certains cas, rendre l'atmosphère encore plus vibrante qu'elle méritait à ce moment-là. Parmi les grands gagnants de la soirée, citons le grand plaisir que nous ayons eu à jouer tous ensemble et évidemment, la gagnante 2007 des Extreme Board Games ne fut autre que Stéphanie.
Je suis Stéphanie, la gagnante de l'Extreme Board Game 2007 et j'écoute Puissance Maximale en stream sur Internet.
Bonjour, ici Philippe Despanières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Alors maintenant, on va passer immédiatement à la chronique jeux vidéo de Sylvie Tappe. Bonjour Sylvie.
Bonjour François.
Alors, tu viens de parler de quelques jeux, un jeu que tu te passionnes particulièrement, là.
Oui, que je n'étais pas la seule à attendre avec impatience, donc l'arrivée du fameux Half-Life 2 épisode 2. Qui vient juste de sortir tout frais du 10 octobre et que j'ai commencé immédiatement, évidemment. Mais avant de vous parler d'épisode 2, j'aimerais juste prendre quelques instants pour faire une petite historique d'Half-Life rapidement et de style télégraphique un peu. Alors, Half-Life, c'est quoi l'histoire, en fait? Half-Life, le premier, c'est un jeu où on joue le rôle de Gordon Freeman. Gordon Freeman est un apprenti scientifique qui est appelé à participer à une expérience de téléportation qui tourne vraiment mal. Donc, il y a une porte, même je dirais plusieurs portes, qui s'ouvrent sur d'étranges dimensions.
Et les extraterrestres arrivent sur Terre pour tout bousiller.
Exactement. Et une panoplie d'extraterrestres. Des personnages plus étranges les uns que les autres. Le centre de recherche en question, ça s'appelle Black Mesa, il est pratiquement détruit par l'expérience sur laquelle participe Gordon. Donc, à partir de là, il doit se démerder avec ça. Grosso modo, c'est ça l'histoire de Half-Life le premier. C'est sorti en 1998. C'était développé par Sierra Studio. Et à l'époque, il utilisait l'engin de Quake. Donc, tous les amateurs de jeux vidéo connaissent Quake. L'engin graphique, bien sûr, qui s'appelle Gold SRC, mais bon, ça c'est pour petit détail technique. Half-Life a remporté en 1998, l'année de sa sortie, 50 différents trophées pour le meilleur jeu de l'année.
Oulala.
C'est pas peu dire. Donc, depuis ce temps-là, c'est vraiment considéré comme le meilleur jeu de tous les temps là, sur
plateforme
PC. Oui, jusqu'à maintenant.
À ce point-là.
Bien sûr, il y aura des gens pour dire « Non, moi, je suis pas d'accord, mais cela ne fait pas l'unanimité parfaite. » Mais en général, là, il a été établi que c'était le meilleur jeu de tous les temps. Suite à ça, on a développé deux packs qui ont été développés par Gearbox Software, qui s'appelle Opposing Force en 1999 et Blue Shift en 2001, où on joue dans un jeu le rôle du garde de sécurité et dans l'autre, soldat. Mm-hmm. On a développé, bien sûr, des packs suite à ça, avec le kit complet des Half-Life, Opposing Force, etc. Et puis les jeux online qui ont été développés aussi suite à ça, Counter-Strike, Team Fortress, etc. D'ailleurs, les développeurs de Half-Life adorent le principe des packs. C'est le malheur que j'ai vécu avec, justement, épisode 2, mais j'y reviens tout à l'heure.
Les packs, en fait, c'est des espèces d'expansions, c'est ça?
Non, c'est le package. Tu sais, quand ils vont vendre le jeu, mais avec un autre jeu, t'en as 4-5 dans le même package. Donc, si tu veux un autre jeu supplémentaire, ben, tu te retrouves à racheter les 2-3 autres jeux que t'avais déjà dans le kit.
Okay.
C'est un petit peu tannant. Donc, en 2004, là, je passe un petit peu les dates, bon, des packs qu'il y a eu en 2000, Platinum Collection, 2002, Platinum Pack, qui se ressemble étrangement, en 2005, Anthology, mais entre-temps, en 2004, apparaît Half-Life 2, qui a été développé par Valve Software Corporation. Donc, Half-Life 2, Gordon se retrouve dans la ville, le restant de la planète, qui porte maintenant le nom de Cité 17. Et qui est sous le joug de l'ancien administrateur de Black Mesa, notre fameux centre de recherche du début, qui s'appelle Wallace Breen. C'est un personnage un peu bizarre. Puis il utilise toutes les ressources de la planète pour servir ses fins. Puis il a le mandat, lui, d'expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi l'invasion en question a eu lieu. Pas facile comme mandat. Et il a sous sa protection, en fait, les espèces d'aliens qui arrivent d'autres dimensions et qu'on appelle les Combine, qui, eux, sont là pour, théoriquement, faire régner l'ordre, mais qui n'ont pas rien fait de la distinction entre ordre et terreur.
Oh là là!
Et dans le 2, s'ajoute, bon, le fameux personnage d'Alex, cette jeune femme active au sein de la résistance contre les Combine et qui devient l'ami, pour ne pas dire plus, de notre Gordon national.
Mais là, il est sorti de l'épisode 2. Du deuxième.
Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu l'épisode 1, bien sûr, mais juste une petite parenthèse pour dire que l'épisode 1 a été bien décevant pour tous les fans d'Half-Life, pour une seule raison. Graphiquement, c'est toujours aussi bon, mais ça a été beaucoup trop court. Un jeu d'à peu près maximum 5 heures, genre 4 à 5 heures. Donc, ça a été très décevant à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu de prix de meilleur jeu de l'année pour épisode 1.
Est-ce qu'ils se sont rattrapés pour l'épisode 2?
Tout à fait. D'ailleurs, aussi, je voulais dire que Half-Life 2 a gagné, lui aussi, 35 prix du meilleur jeu de l'année, hein, ce qui est pas peu dire. Donc, épisode 2, je suis en plein dedans. Il n'est pas encore terminé, bien sûr, je prends mon temps, ça dure un petit peu le plaisir, je l'ai tellement attendu. Donc, c'est toujours du Half-Life à son meilleur. J'imagine, comme j'ai pas terminé, je peux pas dire la longueur exacte du jeu, mais je pense que ça va durer pas mal plus qu'épisode 1. Mais jusqu'à présent, là, c'est du grand Valve Software.
On joue encore Gordon Freeman?
Oui, toujours Gordon Freeman, où on reprend suite à comment s'est terminé l'épisode 1. C'est vraiment une suite intégrale. Là. Dans l'épisode 1, on fuyait la Cité 17 qui est en train d'exploser dans un train qui déraille. Et au début, bon, on sort du train qui a déraillé, finalement. Je remarque vraiment, par exemple, une augmentation exponentielle de la difficulté des personnages, de nos adversaires. Il y en a beaucoup plus et beaucoup plus tôt dans l'histoire. Donc, dès l'entrée du jeu, là, on se retrouve avec des personnages qui sont assez les pires qu'on a eu à vaincre à la fin d'épisode 1 et à la fin de Half-Life 2. Donc, je prévois que d'ici la fin du jeu, là, il y a vraiment de quoi devenir fou un peu avec les monde, là.
Peut-être une dernière minute pour résumer, qu'est-ce qui reste?
Oui, j'ai eu la joie de retrouver mon fameux bazooka, donc ça va bien aller. Donc, Atlas, c'est quand même un jeu d'une qualité graphique qui est vraiment insurpassée jusqu'à maintenant. Mais il y a quand même des petits moins là que je veux soulever. C'est la Moses de boîte orange, comme je disais, parce que pour avoir épisode 2, il faut que tu achètes le package, la boîte orange au complet, ou dans lequel tu es obligé de te taper tous les autres jeux que j'avais déjà. Je trouvais ça un petit peu déplaisant. Quelques petites faiblesses graphiques, malgré tout. Là, des petits bugs ici et là, oui, genre zombie qui est à travers la porte, des petits triangles qui flashent dans le ciel, mais très peu. Là, j'ai remarqué à date 2 ou 3 petits bugs comme ça. Puis la petite histoire simili-romanesque qui s'installe avec Alex.
Ah, ça, ça en prend une.
Ouais, j'ai bien hâte qu'on passe à d'autres choses.
Mais écoute, je te remercie, Sylvita, de venir nous parler de ce jeu merveilleux.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, tu reviens le mois prochain pour nous parler d'un autre jeu, peut-être?
Absolument.
Je te remercie. Sinon, on va retourner en musique et on va essayer d'avoir Brian Perrault.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Alors, vous êtes de retour. Maintenant, est-ce qu'on a Brian Perrault en onde?
Ben, j'espère bien, oui.
Ah, voilà. Donc, je vais faire une petite introduction pour le présenter.
Oui.
Donc, il est né à Shawinigan, il est comédien. Mais c'est pour ses talents d'écrivain qu'on le connaît, car il a écrit la série Amos d'Aragon, qui s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires et a été traduit en 18 langues. Bonjour, Brian Perrault.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler plus particulièrement là, d'un projet qui s'en vient, ça s'appelle Le Sanctuaire des Braves.
Le Sanctuaire des Braves, effectivement, c'est un produit dérivé, finalement, de la série Amos d'Aragon. Si on a le choix d'envie de faire des produits dérivés. Des fois, c'est des bonhommes chez McDonald's, mais des fois, chose. Non, mais c'est un comme l'autre, c'est correct. C'est d'autres choses, et là, ce qu'on présente, mais ce qu'on propose, c'est une expérience, c'est-à-dire que les jeunes sont invités à venir vivre pendant 48 heures dans le monde d'Amos d'Aragon. C'est pas un monde d'Amos d'Aragon où c'est Mickey Mouse, là, où tu vas voir Amos d'Aragon et ses compagnons d'aventure de venir te serrer la main. Non. C'est quelque chose qui se passe 60 ans après que le héros est disparu. Et c'est maintenant au tour des jeunes à venir régler un problème dans le monde d'Amos d'Aragon. Et c'est un peu un camp d'immersion.
C'est ça, faut expliquer aux gens, en fond, c'est une sorte de grandeur nature. Donc les jeunes s'immergent dans un autre univers, ils doivent jouer, interagir dans une espèce de monde qui est mis en place par des animateurs.
Exactement. Et évidemment, il y a des créatures dans les bois, et il y a toute une aventure qui est reliée autour du séjour, évidemment. Les jeunes sont habillés, ont fourni les costumes pour que ce soit vraiment décorum, qu'on soit vraiment dans l'univers.
Vous prêtez les costumes aussi,
oui? Oh, oui, ont fourni les costumes, ont fourni les armes en latex. On a des créations qui ont été spécialement pensées pour le monde d'Amos d'Aragon, puis pour le jeu. Et on fournit l'animation pendant 48 heures et une animation intense où je promets que les jeunes ne dormiront pas beaucoup.
Bonjour Brian Perrault, Sébastien Léonard.
Bonjour.
J'aurais juste une question pour toi. Est-ce que tu es un joueur, toi, personnellement?
De Grandeur Nature?
En fait, est-ce que tu es un joueur tout court? Est-ce que tu aimes ça jouer à des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, des Grandeurs Nature, etc., etc.?
Moi, j'ai joué 15 ans à Donjons et Dragons, mais de la première édition, c'est quand ça a commencé, quand c'est arrivé en français. Ensuite, mon ami Olivier Renard, qui a parti Bicoline, qui est un endroit qui font du jeu de rôle. J'ai participé une année à ça, la première année. J'ai pas trop aimé ça, le Grandeur Nature, moi, personnellement. Mais je suis un très bon joueur sur l'ordinateur. Je joue à plusieurs choses et je suis en ligne sur World of Warcraft.
Oh là 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 là, le jeu addictif par excellence. Mais est-ce que tu as joué à, justement à Half-Life 2?
Non.
Ah non.
Moi, je suis plus... j'ai pas joué à ça. J'ai peu de temps. Alors, quand j'en trouve un qui me plaît, donc je me consacre le temps que je peux à ça. Donc là, je suis pas mal en train de travailler mon nain, là.
Dans World of Warcraft.
Oui, ben c'est drôle parce que personnellement, je me suis 6 pieds 3 et bon, j'aurais pu jouer quelque chose d'autre, mais je joue un nain. Mec!
Ben, c'est ça, l'univers du jeu de rôle. On essaie d'interpréter des personnages différents pour un peu sortir de son personnage habituel de porteur de cravate, hein. On essaie d'un peu de mettre un peu de folie dans notre vie.
Voilà.
Et justement, je pense que ton rôle, en fait, Brian Perrault, c'est justement de promouvoir un peu l'imaginaire chez les enfants dans notre monde, peut-être un peu trop terne.
Ben, ce qui est arrivé avec la série Amos d'Aragon, c'est que ça m'a permis vraiment de prendre une place dans l'imaginaire des jeunes du Québec. D'être peut-être un déclencheur à des littéraires ou à des sortes de livres ou à des lectures qui vont faire en sorte qui vont plonger davantage dans d'autres univers. Tu sais, Amos d'Aragon, c'est un peu la porte d'entrée à tout ce qui est, d'après moi, le fantastique, le merveilleux. Et j'espère sincèrement que les jeunes qui lisent Amos d'Aragon vont ensuite continuer à lire pour rouler sur des choses un peu plus denses, mettons, comme Tolkien.
Peut-être
choses...
même qu'ils vont commencer à jouer à Donjons Dragons?
Peut-être, j'espère bien, ou dans science-fiction, ou des choses qui vont trouver leur intérêt pour qu'ils continuent à lire, pour qu'ils continuent à s'intéresser, puis à développer par la lecture et par le jeu, quelque chose qui est primordial pour moi chez l'individu, c'est la créativité. Mm-hmm. La créativité, c'est ce qui permet, dans la vie, de régler plusieurs problèmes qui seraient autrement difficile à régler. C'est ce qui permet de voir le monde sous un angle différent et c'est ce qui permet aussi de trouver des solutions parfois un peu étranges mais qui fonctionnent à certains problèmes que tu as et de pas être pris constamment à subir les événements mais à vraiment prendre ta place dans le monde dans lequel tu vis.
D'ailleurs, ici, à Puissance Maximale, on encourage tous les jeunes gens à faire preuve de créativité et évidemment de s'amuser un peu avec leur imaginaire. Écoute, Brian Perrault, quand j'ai commencé à lire sur toi, là, parce qu'évidemment, je me suis préparé à faire cette entrevue-là, hein, évidemment, on est professionnels ici, j'ai trouvé des similitudes envers toi puis Tolkien, parce qu'en fait, toi, tu t'intéresses beaucoup aux contes et légendes, tu es un voyageur,
oui.
Et Tolkien, un peu, il avait ce côté-là aussi, il étudiait les langues des cultures étrangères, il s'inspirait beaucoup, justement, des cultures étrangères.
Tolkien, je pense, si je me trompe pas, c'est un linguiste, hein?
Oui, c'est ça.
Qui enseignait à l'université. L'une de ses passions, c'était la langue et les langues anciennes. Évidemment, quand on parle de langues anciennes, on parle de sujets qui touchent les langues anciennes, donc de contes, de légendes, de mythologie. Inévitablement, on se retrouve sur le même terrain un peu. Et moi, depuis une dizaine d'années, même plus que ça, 15 ans, j'ai une passion pour les contes et légendes de la mythologie. Ça a commencé par le Québec. J'ai découvert des auteurs comme Louis Fréchette, comme Honoré de Beaugrand, qui parlaient de la culture populaire d'ici. Puis tranquillement, ben ça a attisé mon intérêt. J'ai peut-être tout lu de ce qu'il y avait de contes québécois. Puis après ça, ben, je suis tombé dans des contes à travers le monde. Et on a cette similitude-là, je pense, de s'intéresser à l'imaginaire populaire des peuples, à prendre certains éléments qui font partie de ça, se les réapproprier et retravailler une histoire autour. Oui, dans ce sens-là, il y a de certaines similitudes, oui.
Dis-moi, Brian, pour ce qui est des activités que tu proposes pour les enfants, justement, qui va avoir lieu bientôt, est-ce que tu as pris une part très active dans monter, par exemple, les scénarios, dans les activités qui vont être proposées?
Moi, je fais affaire avec Olivier Renard, qui est un spécialiste du jeu de rôle, qui est un Belge, qui est ici au Québec depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans presque aussi, et qui a fondé Bicoline, qui est un grand jeu de rôle, finalement. Ils font une grande bataille chaque année en Mauricie. Il y a 3000 participants, à peu près, qui participent à ça. Où il y a des activités toute l'année. Bon, alors, moi, je suis associé à lui, qui est un spécialiste du jeu de rôle. Est-ce qu'on va faire, c'est travailler ensemble. Ensemble pour que l'univers soit respecté, mais en même temps, on va travailler ensemble pour que le jeu soit dynamique, parce que lui connaît... sait comment faire jouer les jeunes, sait comment les intéresser, sait comment susciter l'intérêt. Alors moi, je suis là dans le respect, si vous voulez, du monde d'Amos Daragon, le monde que j'ai créé. Et lui travaille à la structure des scénarios afin que personne s'ennuie, personne ne trouve le temps long. Là. Que ce soit une aventure complète et totale pendant 48 heures.
Oui, j'ai entendu dire, on a parlé avec, je pense que c'est Thomas Pintal qu'on a parlé, il nous disait qu'en fait les gens auraient à interpréter des rôles de gobelins qui devaient lutter contre une espèce de sorcier maléfique.
Ben, bon, la trame, la première trame de l'histoire, disons qu'on est en train de la travailler, c'est les jeunes sont appelés pour protéger la grande bibliothèque. Grande bibliothèque qui appartient au monde d'Amos Daragon. Et dont les livres ont été transférés au Sanctuaire des Braves parce que c'est un endroit d'Albois sécuritaire. Et ben, des forces maléfiques, évidemment, tentent de s'emparer de certains livres de cette bibliothèque-là afin d'utiliser le pouvoir qui est dans ces livres-là pour déstabiliser le monde. Alors, les jeunes, ce qu'ils vont avoir à faire dans la première aventure qui commence en 2008, c'est vraiment de protéger la bibliothèque des bonnets rouges qui sont une sorte de gobelins qui se retrouvent dans Amos Daragon et qui devront se battre et donner peut-être jusqu'à leur vie pour protéger la grande bibliothèque.
Donc, il va y avoir des combats à l'épée en mousse là, contre les gobelins. Les enfants vont se battre contre les gobelins, finalement.
Effectivement. On a un animateur. Le ratio est d'un animateur pour trois jeunes. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'animateurs qui sont là et quand les monstres arriveront sur place, ils vont en avoir.
Puis tu disais que ça allait être en 2008, ça, que ça allait être concrétisé?
On a fait déjà des portes ouvertes en 2007, là, septembre passé, pour les parents, pour tous ceux qui voulaient venir voir c'était quoi ce site-là, puis expliquer ce qui était pour se passer. Parce que la grandeur nature, c'est pas quelque chose qui est très connu pour de la masse.
Alors, c'est un peu difficile à comprendre pour les gens du commun, si on veut.
Les gens qui ont jamais joué, qui savent pas trop c'est quoi une grandeur nature. Donc on expliquait le jeu, c'était quoi, puis qu'est-ce qui était pour se passer, puis on expliquait les costumes, les épées en mousse, et puis bon. Et on a commencé déjà à faire des inscriptions, et le camp commence en 2008, à l'été.
Excellent. Dans ce cas-là, on va te souhaiter bonne chance dans cette direction-là.
Donc,
on rappelle que tu as publié plusieurs romans de la série Amos d'Aragon,
oui.
Et qu'il va même avoir une série télé hein, qui va être fait en qui va sortir en 2009, qui est prévue pour 2009.
Oui, par Spectre Animation, ça va sortir sur Télé-Québec.
Et en plus, évidemment, le camp d'Amos d'Aragon, donc le Sanctuaire des Braves, on peut aller voir le site, je pense que c'est berrion.com.
Voilà, berrion.com.
Très bien, je te remercie, Brian.
Merci beaucoup de votre intérêt.
Sinon, je pense qu'on pourrait peut-être passer au quiz. Quiz à qui, n'est-ce pas, Sébastien? Quand tu vas mettre le petit thème. Donc, c'est très simple, messieurs, dames. Vous avez à répondre à une question niaiseuse et vous appelez au 529-9026 et vous allez recevoir un jeu merveilleux qui s'appelle Monstre-moi un dessin. C'est un jeu qui est familial dans lequel il faut dessiner. Et ça joue très bien en famille, dans un party de boissons. Tout le monde est sous, c'est pas grave, ça se joue très bien. Donc, et avec ça, évidemment, vous n'avez pas juste Monstre-moi un dessin, vous avez aussi un CD Normand d'amour, vous avez un quiz acquis Activision, c'est la trait principal du quiz.
Car chaque semaine, tous les jeux qui sont pas gagnés s'accumulent.
Oui.
Ce qui fait que ça nous permet, en fait, de vous offrir des gros pots de jeux chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone?
529-9026, et vous aurez à répondre à la question suivante. Quel est le nom de famille de Brian qui vient d'appeler?
De Brian quoi?
Brian quoi? Effectivement.
En tout cas, n'hésitez pas à nous téléphoner immédiatement et puis je pense qu'on va passer tout de suite en musique.
Allons-y. Last time I saw you, we went for a ride 100 miles an hour down that fresh line. Bulrushes whispering as we drove by. When whipping through your hair, burning hot. The sound was deafening as we drove by. The air came crashing in on our side. I drove while you sat and you softly smiled. Last wave was lifting, you had begun to shine.
said something, but the wind swept it away. You said something, but the wind swept it away. Hey, running down the highway again, see the sky, prairie horizon cut, sink the light. Go fishing, blurring in the summer light. Go living, governed by the summer light. It takes some courage to say goodbye to the kind of living dirt defines. Each new day can bring brand new life. Each new day can bring brand new life. Freedom doesn't hurt, you said, it just blinds you for a while. Like a glint of light off the edge of the night. Spoke your name, got no reply. I sensed you're leaving for its time. You're looking past me like I was blind. You're standing all alone, me by your side.
Vous êtes de retour à puissance maximale et faisons maintenant un petit tour de table parce qu'on commence à être nombreux. Sylvie Tab est encore avec nous. Bonjour, Sébastien Léonard, moi-même François Jacouillard et on vient de recevoir notre invité qui vient de sortir de son sous-sol.
Oui.
Pour la première fois depuis 1982, Mathieu Blasse.
Bonjour, bonjour. Je vais vous parler d'un moment très important dans l'histoire du jeu vidéo, là, surtout du vieux jeu vidéo rétro. C'est le crash de 1984. Alors, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire du jeu vidéo savent que ce moment-là, c'est un point tournant dans l'histoire.
On connaît le crash boursier, là, mais le crash de jeux vidéo, là, c'est la première fois que j'en entends parler.
Ben, ça a été un véritable crash des jeux vidéo, mais ça a été, c'est juste les jeux vidéo qui ont crashé à ce moment-là. Alors, on se souvient, à l'époque, il y avait Atari, le Atari 2600, il y avait quelques consoles qui étaient là, mais surtout le Atari. Et puis, à l'époque, il y a eu une espèce de rush de toutes les compagnies qui existaient pour faire des jeux vidéo. On avait même la compagnie Quaker, qui font les célèbres qui a fait des jeux vidéo à ce moment-là.
Sans blague.
Oui, oui, vraiment. Je ne sais pas si c'était rattaché à leur produit principal, mais justement, de ces compagnies-là qui n'avaient pas trop rapport avec l'électronique, il y a plein de jeux qui sont sortis. On avait parlé il y a quelques semaines du Cube Rubik en jeu vidéo. On avait parlé de Johnson & Johnson qui avait fait des brosses à dents interactives sur l'ordinateur. Mais il y avait aussi un jeu qui s'appelait Lost Luggage. Alors, en français, c'est les valises perdu. Alors, j'imagine qu'il s'agissait de trouver les valises, perdues dans un aéroport.
On pourrait dire que le crash des jeux vidéo, en fait, c'est qu'il y a eu toute une série de jeux poches qui sont sortis en même temps.
Carrément, c'est vraiment ça. En fait, ça, c'est la raison principale. Il y a deux gros jeux qui sont sortis qui étaient particulièrement poches. Là, on a eu des exemples qu'on vient de dire, mais il y avait Pac-Man et puis le jeu E.T. Alors, E.T., on se souvient que le film a eu un succès incroyable. Alors, je pense qu'à l'époque, il pensait que juste un jeu qui s'appelait E.T., ce serait suffisant pour faire des ventes faramineuses. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu juste 6 semaines pour faire le jeu. Et puis après ça, bon, ben là, c'était le temps de les mettre sur le marché pour Noël. Fait que le jeu était, ben, il était poche. C'était juste E.T. qui se promenait, qui essayait de ramasser des espèces de jelly beans. Il tombait dans des trous.
Des tas de pixels, en fait.
Ouais, c'est ça, des tas de pixels. Et puis là, il tombait dans des trous. Et puis là, il fallait qu'il l'évite à l'extérieur du trou.
Et oui, alors, ça, c'est, E.T. l'évite, ça, c'est ça.
Ben oui. Alors, on dirait vraiment un bug qui n'a pas été réglé avant la fin de la production du jeu.
C'est un des jeux vidéo qui est considéré comme le plus poche de tous les temps.
Oui, ben oui.
Il y a plein de vidéos d'ailleurs sur Internet.
Oui, ben c'est ça. En tout cas, essayez de le trouver sur Internet. Là, peut-être que vous allez pouvoir y trouver un plaisir certain. J'ai entendu des commentaires il n'y a pas très longtemps de certaines personnes qui disaient que c'était pas si pire. Mais je pense que la légende est tellement grande que c'est un jeu... atroce que n'importe quoi qui ressemble à un jeu, on va trouver que ça a de l'allure.
Mais là, je m'excuse, j'ai un petit peu de surprise, là. Pac-Man, un jeu poche, mais il était comme très populaire.
Très populaire. En fait, c'est qu'il a été populaire en arcade, et puis il y a eu des présentations en console qui ont été très populaires aussi. Mais la première transition entre l'arcade et puis les consoles, ça a été un échec total. C'est celui-là, le premier, là, le pionnier des Pac-Man sur console. A été un échec lamentable. En fait, ça ressemblait même pas à Pac-Man. Les couleurs n'étaient pas les mêmes. C'était tout croche. Et puis là, les gens ils se sont dit bon ben ça a pas d'allure. Les jeux vidéo c'est plate. Fait que ça a comme craché à ce moment-là. Les médias ont embarqué. Puis là bon, vous savez comment les médias peuvent influencer toute la population. Alors les investisseurs ont arrêté d'investir dans les jeux vidéo. Les marchands de jeux vidéo ont commencé à vendre les jeux vidéo, mais à rabais, mais tu sais, des rabais incroyables, genre ça passait de $50 à $4 pour n'importe quel jeu.
Ah ouais.
Et puis toutes les gens qui faisaient de la vente de jeux vidéo ont décidé d'arrêter de vendre les jeux vidéo. Alors c'est pour ça que quelques années plus tard, après que la poussière soit tombée un petit peu, ben Nintendo est arrivé dans le portrait avec son Nintendo Entertainment System. Et puis il a fallu qu'il fasse toutes sortes de passe-passe pour pas que ça soit véritablement une console de jeux vidéo aux yeux des vendeurs de jouets. Là.
De quelle façon?
Déjà le nom, ça s'appelle Nintendo Entertainment System. Fait que tu sais, c'est un peu vague, c'est pas vraiment les jeux. Tu sais. Puis là, après ça, il y avait le robot qui était avec.
Oh, oui.
Vous vous souvenez du fameux robot
Rob.
Qui était, ouais, c'est ça, Rob, qui était pas très intéressant, mais c'était robot là.
Si je me trompe pas, là, il faisait tourner des espèces de toupies pour une espèce de jeu.
Qui s'appelait Gyromite. Ouais, il y a eu deux jeux qui ont mis en scène notre ami Rob. Mais c'était en fait une passe-passe pour que le Nintendo Entertainment System soit plus que juste une console de jeux vidéo. Alors
c'est pour ça qu'il y a eu le Light Gun puis le
exactement.
Pas le Power Glove, ça c'est arrivé après.
Ça c'est arrivé un petit peu après, mais effectivement le Gun c'était encore une innovation pour essayer de faire en sorte que ce soit pas un jeu vidéo là. Okay. Fait que, c'est ça. Puis là évidemment ça a marché. Nintendo a fait toutes sortes de choix de marketing pour que ça fonctionne. Et puis bon, j'imagine que le prochain chapitre ça va être dans une prochaine chronique que je vais pouvoir vous le communiquer à ce moment-là.
Ah ouais. Ben, on a encore quelques temps. Si on parle de E.T., là, je pense que ça a été très mal là, pour la compagnie qui est sortie ce jeu-là.
Oui.
Qui cachent leur jeu.
Il a fallu qu'ils enterrent au Nouveau-Mexique. Effectivement. Ce qui est arrivé, c'est très secret. Ils ont fait tellement de copies. Dans le cas de Pac-Man, justement, ils ont fait tellement de copies qu'il y avait plus de copies que de consoles. Ils s'attendaient à ce que les gens achètent des consoles pour acheter la copie. Alors E.T., c'était à peu près la même idée. Il y avait tellement de copies que l'offre était trop grande. Là, évidemment, la demande était nulle parce que le bouche-à-oreille a fait en sorte que les gens se sont dit que ça valait pas la peine de l'acheter. Alors, tout ça ensemble, ça a fait en sorte que finalement, le producteur a décidé d'enterrer toutes ses copies au Nouveau-Mexique dans un espèce de dépotoir. Alors, c'est devenu une autre légende du jeu vidéo. Là, tout le monde se demande où est ce dépotoir-là. Il y a eu même des vidéoclips, je pense, qui ont été faites à
Area 51.
Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est tout à la même place. Le Nouveau-Mexique. Ça passe des affaires.
Les ouais. triangles du Nouveau-Mexique. Ben écoute, je te remercie, Mathieu.
Ça fait plaisir.
On se revoit bientôt pour en parler encore un peu plus des jeux rétro. On aime tellement ça. Donc, Sébastien Léonard, quand tu es prêt pour passer une pièce, quelque chose du genre, vous écoutez toujours Puissance Maximale.
Madame du lac, puisses-tu rester dans la vie infernale que t'as vu naître. Ah, enfin, l'objet de ma quête, le Saint Graal.
Pour choisir la richesse éternelle, va à la page 22. Pour la vie éternelle, page 3. Pour obtenir la puissance maximale, fais le 6.
Parbleu, Moi, mouflet de mon fleur, chevalier sans peur et sans reproche, je choisis l'or.
Tu es sûr? Sache que la puissance maximale t'apportera bien plus.
Ah oui?
Des chroniques, des entrevues, des nouvelles insolites sur le domaine du jeu, tu sauras tout sur les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo et les grandeurs nature. Le tout est fourni par François G. Couillard et Sébastien Léonard.
Tu m'as convaincu, narrateur. C'est un rendez-vous. Puissance maximale, tous les lundis, 17h.
Vous écoutez toujours Puissance maximale, votre magazine ludique. Et donc, on est maintenant dans la section, peut-être nouvelle insolite. Sébastien Léonard, tu as quelque chose à nous dire à propos de l'Allemagne.
L'Allemagne, oui, l'Allemagne.
L'Allemagne qui est justement dans notre trajectoire là, vers la Russie là, pour envahir la...
Oui, qui pour le temps, en fait, d'une semaine devient quasiment la mecque de tous les joueurs de jeux de plateau, puisque Essen, qui est le nom d'une petite ville, une petite bourgade en plein milieu de l'Allemagne, va accueillir pendant, en fait, jeudi 18 au dimanche 21 octobre, pour être plus précis, va accueillir tout ce qui se fait de joueurs de jeux de société, de joueurs de jeux de plateau, les créateurs, les grandes maisons, et tout le monde veut ou rêve un jour ou l'autre de se retrouver là-bas, au beau milieu de tout le monde, de toutes ces grandes stars. Wow. Entre autres, nous avons dépêché une de nos meilleures, je dirais même notre chroniqueuse attitrée, il s'agit ici de Chantal du Valais.
Chantal, on lui a payé le voyage en Allemagne.
Exactement. Et on lui a demandé d'aller nous trouver des éditeurs et aussi des créateurs pour venir directement en nombre parler avec nous. Ce qu'on aura sûrement la semaine prochaine.
On va avoir Roddy, de jeu To Roddy. On va avoir quelques célébrités.
Oui, on va avoir des célébrités qui vont venir nous parler la semaine prochaine. Donc surtout, restez avec nous la semaine prochaine parce que ça risque d'être assez incroyable.
Sinon, on n'a pas beaucoup de temps. On va vous dire simplement l'agenda ludique de la semaine comme à chaque semaine. Donc, ce soir à l'Astradamus, le bar d'Astradamus, la rue Couillard, il y a des jeux de plateau. Mardi, demain, il va y avoir des parties de Go au Café Aga. Et sinon, en fin de semaine, vous pouvez aller dans le sous-sol du pavillon La Certe pour au club de Danaguer, le Seigneur de Danaguer, pour jouer à des jeux de plateau, des jeux de figurines, des jeux de rôle. Et évidemment... Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ça va être c'est la conclusion déjà de Puissance Maximale. Donc, allez sur puissancemaximale.com. Vous allez avoir toutes les informations. Vous allez avoir du plaisir pour des heures. Vous allez même pouvoir écouter l'émission. Et sinon, ben, on se dit c'est ça, à la semaine prochaine. Et on remercie Mathieu Place. On remercie Brian Perrault. On remercie Sylvie Tapp. On remercie Sébastien Léonard. Et on remercie même Jean-Marie, n'est-ce pas, qui a fait jouer le rôle d'un Kozak poilu. Donc, on vous salue et on vous laisse avec Restant en nom. Bien sûr, ça va être l'émission Homologue. I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No.
It's the end. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we
one, two, three, four, die.